La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Notre récit nous pose dans un décor, à nous de jouer et d'inventer la vie qui va avec. C'est signé Cédric Godard, journaliste et copywriter qui vit à 8900 km d'Autun-Saint-Siméon, où il a poussé son premier cri il y a une trentaine d'années, j'imagine. Good morning Cédric.
Good morning, enfin c'est la nuit ici, c'est la pleine nuit pour l'instant.
C'est vrai, 9h10 et des poussières en Belgique, minuit et oui absolument, vous êtes le bienvenu sur la première, une radio dont vous êtes le correspondant sur la côte ouest des États-Unis. Où êtes-vous précisément ?
J'étais à San Francisco jusqu'il y a quelques mois de cela et je viens de déménager quelques centaines de kilomètres plus loin à Santa Barbara, c'est aux portes de Los Angeles, un peu plus au sud. Nettement plus aussi.
C'est ça, c'est Santa Barbara là, Cédric, oui.
Exactement, c'est celui-là, c'est celui des studios où on a enregistré cette série qui est passée il y a 25 ans maintenant.
Oui, c'est sûr. Vous étiez à l'école primaire du côté de Visé sans doute.
Exactement, j'étais à Visé. Ouais. Donc la létharée de ce week-end, ça me parle beaucoup. Ah, et je ne vais pas dire que ça me manque beaucoup, mais en tout cas, c'est une ambiance un petit peu particulière de post-carnaval.
On vous envoie un petit morceau de doigt à l'instar de Visé. Pour dialoguer avec vous, un expat originaire du nord de la Californie, il a quitté l'Oregon il y a une trentaine d'années pour vivre dans notre vieille Europe. Bonjour Roy Gentry.
Bonjour Adrien. Hi, Cédric, how are you doing?
Hi, I'm good, thank you.
Alors c'est comique cette histoire parce que beaucoup d'entre nous, comme Cédric, cultivent the American Dream. Vous, c'est la Belgique qui vous faisait rêver quand vous étiez gamin, Roy?
C'est l'Europe qui a toujours m'attiré depuis l'âge de... Alors 14 ans, j'ai décidé que je voulais vivre en Europe. Et je ne sais pas pourquoi. J'étais un petit gamin à la ferme en Oregon, loin de nulle part. Mais je songeais avec des cathédrales, des châteaux et des chevaliers. Je suppose.
C'est pour ça que vous avez fait des études de romane.
J'ai fait des études de français. J'ai commencé au lycée. J'ai fait 2-3 ans. Et puis, enfin, j'ai terminé mes études universitaires en langue romaine, oui, en anglais, en français, italienne.
Ah, ça va faire plaisir à Catherine Tenero.
Si, certo. Possiamo parlare italiano anche.
Et quasi tutto domenticato adesso.
Non, très bien italien.
Pas mal, pas mal. Catherine Tenero et Véronique Gallo. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour.
Nos deux chroniqueuses bourlingueuses de la première classe aujourd'hui. Catherine, vous êtes déjà allée aux États-Unis comme Cédric Godard, comme Roy Orbison.
Oui, plusieurs fois à New York, à Chicago, à Boston aussi et en Californie il y a des années.
Oui, et vous Véro, vous avez passé un an dans l'Oregon, ça c'est rare.
Oui, c'est vrai que l'Oregon c'est rare.
C'est loin.
Parce que c'est pas la destination qu'on choisit en premier lieu.
Oui. Voilà. Vous avez aussi un point commun avec Roy, vous avez fait des études romaines.
Oui, voilà, tout à fait. Ouais.
Et juste avant ces études-là et après les rétos, il y a eu une année avec le web. C'est quoi le web?
La Web, c'est une organisation qui envoie des étudiants, c'est un peu comme le Rotary ou l'AFS, et qui permet de passer une année dans une famille d'accueil, souvent après sa réto. Voilà, c'est une expérience extraordinaire, voilà, que je conseille à tout le monde.
Vous nous parlerez tout à l'heure d'une autre expérience très particulière de votre mère d'accueil.
Voilà, oui. je ne vous en dis pas plus, mais ça va fumer.
Ça va fumer, ouvrez les fenêtres.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Cédric Godard, vous aussi, vous cultivez des points communs avec Roy, notre American Boy, entre autres des études de traduction. Alors, quand on entreprend ce genre de cursus, Cédric, c'est, j'imagine déjà avec une idée derrière la tête, un certain goût du voyage, de la découverte.
Oui, j'ai un parcours assez similaire, mais tout à fait inverse, puisque moi aussi, j'ai grandi dans un tout petit village, Autun-Saint-Siméon, pas loin de Visé, pas loin des fermes également. C'était pas dans une ferme, mais c'était pas loin des fermes. C'était vraiment à quelques dizaines de mètres. Et puis... À 16 ans, j'ai eu la chance de faire un petit voyage d'études aux États-Unis, moi aussi, qui m'a probablement convaincu qu'il faudrait un jour ou l'autre y revenir. Et puis, j'avais pour ambition, après mes études de traduction à Bruxelles, de peut-être passer le reste de mes jours aux États-Unis. Voilà, c'est un rêve qu'on peut avoir à 18 ou à 20 ans. Et puis, ça n'a pas été possible parce que j'ai rencontré l'amour à 20 ans et demi. Et donc, ce rêve a été postposé d'à peu près 15-16 ans.
et vous êtes finalement au pays de vos rêves. Je vous lis parce que vous avez commis un roman. Il y a cette phrase qui vous colle à la peau, Cédric Godard. « J'ai choisi le sud. Les hommes choisissent toujours le midi pour affronter les démons de leurs errances. Lucifer a les idées claires lorsque sonne l'heure du déjeuner. »
Et vous c'est y êtes... ça, moi, il y a longtemps.
Oui, c'est dans le sud de la Californie, vous y êtes. Alors, à l'heure du déjeuner, nous, c'est le Breakfast in America. Ce matin, on va bruncher en Californie, Catherine Tonero. C'est un état bordé par l'océan Pacifique, à l'ouest des États-Unis. La Californie s'étend sur près de 424 000 km², c'est 14 fois la Belgique.
Oui, un énorme état qui offre des paysages très variés, qu'ils soient urbanisés ou sauvages. Mer, montagne et désert se trouvent aux portes de grandes villes. La Californie, c'est un peu un état dans l'état le plus peuplé des États-Unis, avec près de 39 millions d'habitants, dont 18 millions vivent à Los Angeles. Sa capitale, c'est Sacramento. Autre ville emblématique, San Francisco et sa baie, évidemment, qui abrite la Silicon Valley, premier pôle mondial des hautes technologies.
Bien avant cela, c'était une terre peuplée de tribus nord-amérindiennes.
Oui, elle n'échappe pas à la colonisation espagnole. Elle est rattachée, la Californie, en 1821 au Mexique indépendant. L'État californien le devient lui-même à l'issue de la guerre américano-mexicaine. Il abolit l'esclavage, se dote d'une constitution et finit par adhérer à l'Union. On est en 1850.
Et à cette époque, la ruée vers l'or fait de la Californie le symbole du rêve américain.
Oui, le seul Californien regorge de pépites qui attirent des milliers d'immigrants américains et européens. L'afflux va permettre un important essor urbain autour de Sacramento, San Francisco, le développement des transports aussi. Revers de la médaille, de nombreux Indiens sont chassés de leurs terres pour permettre l'extraction d'or et qui va entraîner de gros problèmes environnementaux. Il n'empêche, c'est bien au départ de ce rêve californien que des générations d'immigrants vont contribuer à développer l'agriculture, l'industrie pétrolière, aéronautique, ensuite informatique et l'industrie culturelle aussi, avec son cinéma hollywoodien.
Et c'est précisément dans les médias que travaille sur place notre Belge du bout du monde, Cédric Godard. Ça a commencé, je crois, par un congrès de nouvelles technologies du côté de San Francisco.
Ça a commencé plusieurs fois d'ailleurs par des congrès auxquels j'étais non pas invité mais que je finançais moi-même en disant mais peut-être qu'un jour ça va me servir. Et donc j'intervenais depuis San Francisco et depuis la Californie pour la RTBF mais aussi pour d'autres magazines et des sites et des blogs technologiques. Et puis après je pense 8-9 voyages en Californie en 3 ou 4 ans je me suis dit bon bah maintenant on va y aller.
Ouais, on passe le cap et c'est pas évident hein. Vous racontez sur votre blog cedric.fm que vous avez été sur la Batte à Liège et dans des brocantes vendre vos livres, vendre vos meubles, ça déchire, c'est pas facile de quitter son petit pays.
Non, j'avais 36 ans à l'époque et puis on était deux, on avait deux petits animaux et on s'est dit que fait-on ? Est-ce qu'on envoie nos meubles là-bas ou est-ce qu'on recommence une nouvelle vie ? Et donc on a décidé de tout vendre, tous les meubles, les livres et puis on s'est retrouvé avec quoi ? Avec deux valises, un matelas gonflable le dernier jour en se disant voilà, on n'a plus rien et on va tout recommencer.
Ouais. Alors la Californie, ben Catherine le disait, c'est gigantesque. Certains pensent que c'est devenu ingouvernable. Tim Draper, un investisseur bien connu de la Silicon Valley, propose même de découper la Californie en 6 états différents parce que le nord est le plus riche, Cédric.
Exactement, et le sud est le plus pauvre, quoique San Diego, qui est la ville la plus au sud, n'est pas tout à fait une ville pauvre, mais c'est un pays, c'est un état, voilà, vous voyez, moi-même je dis pays, c'est un état plein de contrastes avec des populations pauvres et des populations extrêmement riches, à plus forte raison ici, dans la région de Santa Barbara, qui est l'une des plus, probablement des plus riches de cet état. Une forte immigration mexicaine, pas toujours très légale également, c'est une terre de contraste.
Ouais. Vous, Roy, vous êtes né au Colorado, vous avez grandi en Oregon. Sa capitale, Salem, elle est très discrète, elle ne fait pas beaucoup parler d'elle. Vous venez de quel coin exactement ?
Je viens d'à côté de Salem, d'un deux petits villages qui s'appellent Monmouth et Independence.
Ça vous va bien, ça, Independence ?
Independence, oui. C'est nommé pour la ville d'origine des pionnières qui sont arrivées en Oregon, de Missouri, dans les Canastoga.
Vous connaissez le coin, vous y êtes allé, Véronique Gallo ?
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que l'Oregon, c'est beaucoup de terres sauvages d'abord. Il y a pas, c'est pas l'état le plus habité des États-Unis. C'est assez sauvage. Et c'est vrai que moi, je me rappelle très bien que quand j'ai atterri avec l'avion au-dessus de Medford, qui était la petite ville au sud où je me rendais, je regardais par le hublot, je me disais, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Mais en fait, il y a des gens, voilà, mais il faut descendre un peu plus bas, mais c'est assez impressionnant.
Ne quittez pas, les Belges du bout du monde ce matin sont dans l'Oregon et aux États-Unis, en Californie aussi, avec Cédric Godard. On en reparle après la nouvelle chanson de Chris Isaac. Est-ce qu'elle tourne déjà sur les radios FM là-bas, du côté de Santa Barbara?
J'écoute plutôt des radios de country music et de musique classique, donc je suis incapable de vous le dire, mais allez, on va dire oui.
Son titre est tout un programme, Cédric, ça s'appelle Rêverie.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Titre français pour le Californien Chris Isaac, ça montre que la langue de chez nous a la cote et fait rêver outre-Atlantique. La preuve aussi avec Roy Gentry, linguiste américain qui vit en Belgique depuis plus d'un quart de siècle. Vous le confirmez, le français a un petit côté presque sexy, charmant.
Sexy, charmant, romantique, c'est tout.
Roy qui est en duplex avec notre confrère Cédric Godard, journaliste belge installé dans l'Ouest américain.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Cédric, vous écrivez sur votre blog cédric.fm que le rêve américain se déguste cru. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, quand je suis arrivé, comme tous les expatriés, avec mes images de rêve américain, je me suis dit, mais tout va être beaucoup plus simple. Je suis débarrassé de l'enfer administratif, de l'enfer fiscal. Eh bien, c'était mal connaître les États-Unis. Globalement, je devrais dire que d'un point de vue administratif, c'est plus compliqué que prévu. Et d'un point de vue humain aussi, ça n'a pas été simple en 2 ans de faire son chemin ici, de se faire des amis et autre chose que des amitiés un peu superficielles. C'est un vrai parcours du combattant. Pour moi, ça a pris... Je dois être très honnête, à peu près 2 ans. Et on était sur le point de rentrer.
Ouais, alors la première année, l'année du doute. La deuxième année, l'année de l'éloignement du doute. Et la troisième année, là, il faut décider, quoi. On part, on reste. Et vous avez dû vous sortir de votre zone de confort parce que je crois que votre contrat est expiré, là. Il fallait rentrer.
Mon visa de journaliste que j'avais depuis 2011 expirait il y a quelques semaines de cela, donc il fallait trouver une solution. Et puis mon compagnon avait perdu son travail il y a quelques mois ici aux États-Unis, donc l'immigration aux États-Unis est l'immigration choisie. On sait dans quoi on met les pieds en arrivant ici, donc on a dû trouver une solution. La solution, c'était de trouver un autre visa, très compliqué, opération très compliquée qui nécessite notamment de rentrer en Belgique, ou alors d'ouvrir une petite boîte. Et c'est ce qu'on a fait, mais alors dans un domaine totalement différent, puisqu'on a décidé de reprendre une petite société qui travaille dans le monde du vin, qui était vraiment à milieu de tout ce qu'on avait pu imaginer jusqu'ici.
C'est dingue ça, le journalisme mène à tout. Vous reconnaissez un peu dans ces démarches difficiles, Roy, ou alors c'est plus facile quand on vient des États-Unis et quand on arrive en Europe?
Il n'y a rien de facile en Europe, rien du tout. Et même moins en Belgique. En Belgique, ça m'a pris 14 ans pour avoir une statue vraiment stable. Et c'était avec la nationalité il y a 7 ans que franchement je suis bien. Mais c'est en me mariant. Je suis venu ici pour être avec mon couple aussi, mon conjoint. Mais là, le mariage entre un couple d'hommes n'était pas reconnu à l'époque. Je n'avais pas de raison d'être là. Et comme Américain, même moins.
Alors maintenant, vous êtes belge ou vous êtes américain? Vous avez les deux passeports?
J'ai les deux.
Ah ouais, pas mal.
J'ai les deux, on peut l'avoir.
Ouais.
En fait, c'est difficile de renoncer à l'américain. C'est pour le fisc.
Donc, si je me souviens bien, vous êtes venu en Belgique, c'est raison fiscale et sentimentale un peu.
Je suis en Belgique précisément à cause de l'amour. Je n'avais pas choisi la Belgique, c'est la Belgique qui m'a choisi.
Ouais.
Mais... Non, je suis là, c'est une décision fondamentale que j'ai prise.
De cœur, en fait. De cœur. Et puis de travail, puisque vous avez trouvé un job à la Commission européenne, on en reparlera tout à l'heure. Mais tout de suite, un gros plan, Catherine Tonero, sur l'économie dynamique et puissante de la Californie, qui en fait l'État le plus riche des États-Unis.
Oui, une réussite qui repose sur des industries de pointe, une agriculture performante, une population nombreuse et en croissance continue. La Californie, c'est 13% du PIB américain. C'est l'équivalent de PIB de pays comme l'Italie ou l'Espagne. Tout cela a commencé, on en a parlé, avec la ruée vers l'or. Alors, quant à son nom, The Golden State, l'État doré, il est évidemment associé aussi à l'or, mais la Californie, il devait bien avant cela à la couleur jaune vif de son pavot, la fleur nationale.
Alors, au niveau politique, l'État penche plutôt côté démocrate.
Depuis plus de 20 ans, la Californie choisit les candidats démocrates lors des élections présidentielles. On y reviendra. Son gouverneur actuel est le démocrate Jerry Brown. Il a succédé à l'acteur républicain Arnold Schwarzenegger, qui a gouverné l'État de 2003 à 2011. En fin de mandat, sa popularité dégringole. La crise économique est passée par là. Le chômage est en forte hausse. Mais la Californie doit à gouvernateur une politique pro-environnementale pionnière dans le pays et modèle d'ailleurs au niveau mondial.
Gouverneur, pas mal. Vous allez Roy Orbison. Je vous appelle Roy Orbison, c'est marrant. C'est Roy Gentry. Vous allez Roy Gentry voter pour les présidentielles parce que vous avez toujours le passeport américain. Vous pouvez voter.
Bah oui. Dans les présidentielles en mois de novembre.
Oui, je devine que vous avez voté pour Trump, vous. Hein.
Ah oui, deux fois. Non.
Non.
Non, je suis un peu plus responsable que ça.
Je taquine. Vous avez travaillé pour un député britannique au Parlement européen.
Oui, Alan Donnelly. C'était,
un progressiste, en fait, plutôt Labour.
Oui, c'était Labour du nord de l'Angleterre, plutôt Newcastle, Tyne and Wear. Et c'était précisément lui qui m'a sauvé la vie ici en Belgique, parce que j'avais reçu un rejet.
Un ordre de quitter le territoire?
Oui, plus ou moins. Quand il a su que j'avais un petit problème comme ça, un peu mon parcours, et que j'étais américain, et lui, il était le président de la délégation de relations avec le Congrès américain, mais ah bon, vous pouvez venir travailler chez moi. Et ça, je l'ai fait pendant 5 ans.
Dis donc, quel parcours. Cédric Godard, ça n'a pas été facile pour vous de vous installer aux États-Unis, mais vous voyez que ce n'est pas facile non plus pour un Américain de s'installer en Belgique. Hein.
Non, je pensais effectivement que c'était un petit peu plus simple dans ce sens-là. Et un ordre de quitter le territoire, ça me semble tellement américain aujourd'hui et tellement naturel ici que...
Ça arrive ici.
Ah, je me suis dit, ah, ça marche aussi dans l'autre sens.
Et en travaillant avec le député, c'est venu avec un permis de séjour spécial automatique. Après beaucoup de démarches, j'ai pu le convertir pour avoir la carte verte belge. Et puis, ce n'était qu'en me mariant que franchement, les choses se sont devenues faciles.
D'accord.
Si je peux ajouter quelque chose, Adrien, nous avons donc, mon compagnon et moi aujourd'hui, le même visa, ce qui est possible uniquement depuis la fin du mois de juin de l'année dernière, grâce à la décision de la Cour suprême, parce que jusque-là, les couples de même sexe n'avaient pas le droit d'être sur le même visa légalement. Ou alors le conjoint n'avait pas le droit de travailler, n'avait pas le droit de demander et d'obtenir un permis de séjour. Donc tout ça est très récent ici aux États-Unis. Voilà, c'est une vieille histoire en Belgique qui date de la fin des années, des années 90.
Pas si vieille que
c'est
ça.
Tout récent.
C'est pas si vieille que ça.
Oui, peut-être pour vous. Dire.
J'ai dû attendre 14 ans.
Bon, ben il faut s'accrocher, il faut être opiniâtre. Et puis finalement, le temps vous a donné raison de part et d'autre de l'Atlantique. Hein. C'est bien tous les deux.
Il faut être persistant.
Ouais, il ne faut pas lâcher. Hein.
L'amour... Il a des ongles très longs.
Oui, et des ongles
des
très
griffes,
positives.
Des griffes.
Bon, on va faire un petit blind test, si vous voulez bien. Uh-oh. Vous pouvez tous jouer, hein, les garçons et les filles. Hein, Catherine et Véronique, vous pouvez également essayer de reconnaître les intros. Ce sont des chansons, des musiques qui parlent de la Californie. Est-ce que vous êtes prêts, Cédric Godard?
Allons-y.
Parce que vous êtes animateur radio à la base. Hein. Je vais tester vos connaissances.
Je suis très mauvaise.
Allons-y, top départ.
Ah bah Hotel California.
Hotel California.
Oui, Véronique Gallo, la première.
Facile,
oui. Alors attention, la deuxième.
California Dreaming.
Oh
California
oui, très Dreaming. Très bien, Roy. Très
Mama
très bien.
Papas.
Attention, la troisième. Ça parle de pluie dans le sud
It
de
never
la...
rains It never California. Rains.
Ah, un point pour Cédric Godard. Très beau, très beau. Et ça, Cédric, c'est le titre d'une de vos chroniques sur Pure FM. Mmh.
Californication.
Ouais. Très bien, très bien.
Et moi j'ai le décalage, j'ai une seconde de décalage. J'ai
oui.
un handicap face à vous.
En prime, on vous en met un petit juste pour vous, Roy.
It's been so long.
Je suis pas trop de country donc.
Bon, allez, il y a le prénom, c'est le même prénom.
C'est Roy quoi?
Roy Orbison.
Ça, c'est Roy Orbison.
Bah oui, California.
Je connais Only the Lonely.
Alors, il chantait California Blue, Roy Orbison. Il est toujours bleu, le ciel là-bas en Californie, Cédric Godard.
Ouais, je vais vous décevoir, on a eu pas mal de pluie à cause de El Niño, phénomène climatique qui touche particulièrement la Californie cette année, ces dernières semaines, mais là le ciel est bleu depuis plusieurs semaines de manière continue. Donc ici dans le centre, Central Coast, on est à peu près à 70 degrés Fahrenheit, ça veut dire 20-25 degrés Celsius.
Oui, et tout ça oui, un 6 mars, hein, c'est pas mal. Et je vois dans le guide du routard, page 368, que 84% de jours sont ensoleillés sur Santa Barbara.
C'est criminel, je confirme. Il faut un peu plus.
Alors, vous écrivez, parce que moi j'ai été un petit peu fureté sur votre blog et je recommande à nos auditeurs de le faire parce qu'il y a des petites perles comme celle-ci. Vous écrivez « Les bruines sont rares par ici, elles ont toute mon admiration ».
C'est ce qu'on appelle l'effet de compensation, Adrien.
Très bien. Alors, il faut de la pluie pour arroser les vignobles. Hein. Quel va être votre job sur place dans le vin, Cédric ?
Alors, on a racheté une petite société touristique qu'on a complètement renommée. On l'a appelée The Wine Experience. Et puis, on va conduire en bus des touristes américains, des touristes européens et francophones spécifiquement, puisque ce sera une des cibles qu'on va viser, et leur permettre de visiter le Wine Country, donc la vallée des vins qui se trouve tout autour de Santa Barbara et qui est d'une richesse extrême, puisqu'il y a un phénomène climatique ici où les nuits sont très froides et où les journées sont, vous l'avez compris, relativement chaudes. Et donc, ça donne des vins qui sont des vins de caractère, des vins très très intéressants. Et puis toute la Central Coast, c'est-à-dire la côte centrale de la Californie, est très très loin, en tout cas du succès de la Napa Valley ces dernières années. La Napa Valley qui est devenue un petit peu le Disneyland du vin dans le nord de San Francisco. Ici, il y a quand même encore un peu plus de caractère, d'authenticité, et donc on va donner envie, je l'espère, aux Belges, aux francophones de venir nous rejoindre et de faire un tour dans ces vignobles qui sont encore à taille humaine, qui sont encore très très différent de ce qu'on peut trouver dans le nord de la Californie.
Ça vous plairait, Véronique Gallo, Catherine Tenero ou Roy Gentry, un petit wine discovery avec Cédric Goddard?
Oui, c'est séduisant.
Surtout que je suis fan du vin Gallo. Il y a un vin californien qui porte le même nom que moi et qui est délicieux, je conseille à tout le monde. Mais je ne sais pas d'ailleurs s'il vient de la région de Santa Barbara, mais je crois que c'est au-dessus de San Francisco, je pense.
On va marquer une petite page de pub, si vous voulez bien. Et puis, on se retrouvera dans quelques instants avec un cannabis récréatif. Ça, c'est, ça, c'est du teasing.
Ah
ben,
écoutez, restez, restez.
9h, 10h.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Avec Adrien Jouvenot.
Merci de faire confiance à la première pour vous réveiller et vous faire voyager. Nous sommes en ligne avec Cédric Goddard, quelque part sur cette boule qui roule vers l'infini. Il est en Californie, en duplex avec notre invité, l'Américain Roy Gentry, et nos chroniqueuses Véronique Gallo et Catherine Tenero.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Cédric, j'ai le sentiment qu'au bout du monde, vous vous êtes rapproché de vous-même. Je me trompe ?
Oui, j'ai pris pas mal de recul. Il y a un phénomène que Roy doit connaître par rapport à sa famille, c'est le phénomène du décalage horaire. Il y a entre la Californie et la Belgique la plupart du temps en 9h, ça peut aller jusqu'à 10h une partie de l'année puisqu'on ne change pas l'heure au même moment que vous. Et d'être loin, d'avoir ces paysages qui sont absolument magnifiques, c'était déjà le cas dans la Silicon Valley, dans le nord de la Californie, mais ça l'est à plus forte raison encore maintenant ici avec ce ciel bleu, avec ces paysages qui sont dignes d'une espèce de côte d'azur en pleine Californie. Et à lire plus, à être en introspection, je pense qu'on se rapproche un peu plus de soi-même.
Vous confirmez, loin des yeux, près du cœur, près de soi aussi?
C'est un peu du tout, oui. Il y a des choses qu'il faut simplement oublier, il faut simplement laisser de côté, parce que ça fait trop mal, on ne peut pas vivre en deux endroits en même temps. Donc on fait un effort de laisser d'à côté, mais on n'oublie jamais. Et puis quand on reprend contact avec des êtres chers, c'est comme si on n'était jamais à part. Ça c'est génial aussi.
Ouais. Vous venez, je le rappelle, hein, de l'Oregon, un État grand comme 8 fois la Belgique et qui compte seulement 3 800 000 habitants. Vous y avez passé un an, Véronique Gallo, et avec votre famille d'accueil, je crois que vous avez abordé certains sujets, parfois un peu tabous.
Que ce soit d'argent avec la question tout à fait décomplexée de « How much do you make ?» qui se prononçait dans tous les repas de famille chez eux avec la même légèreté que « Qui veut des haricots avec son rôti chez nous ?» voilà, que ce soit de Dieu qui, bon, précisons-le, selon eux, forcément existe. Hein, c'est une évidence pour 80%. 88% des Américains. Moi, je me souviendrai toujours de la tête qu'ils ont faite quand je leur ai parlé du haut de mes 17 ans, du fait que j'étais éventuellement agnostique. D'abord, je crois qu'ils ne connaissaient pas le mot. Et puis surtout, quand je leur ai expliqué, ils m'ont regardé avec beaucoup de tristesse et presque de la pitié. C'était très... voilà, mais bon. Et cette famille, voilà, c'est le seul exemple que j'ai, évidemment, mais me semble être le reflet d'un peuple, Cédric l'a dit tout à l'heure, qui est fait de contrastes extraordinaires et dont l'ambivalence est quand même parfois surprenante. Alors pour ça, je vous raconte une petite histoire. Il faut savoir que ma famille, ma maman d'accueil, pardon, a eu il y a 8 ans un cancer du sein assez lourd et difficile à traiter. Alors évidemment, avoir un cancer, c'est déjà toute une épreuve, mais quand on sait qu'elle a été obligée d'emprunter l'équivalent de 98 000 euros pour payer sa chimio, son ablation et sa reconstruction mammaire, pour nous, évidemment, c'est encore plus terrible et très étonnant. Alors pour elle, coiffeuse indépendante qui s'est construite toute seule, ça fait partie du chemin. Et ils sont tellement attachés à l'idée que chacun est et doit être responsable de sa propre vie, de son individualité, que même quand on leur parle de la chance qu'on a ici en Belgique d'avoir une sécurité sociale, honnêtement, ils ne nous envient même pas. Alors du coup, quand je lui ai demandé à l'époque en quoi je pouvais l'aider, je me rappelle que sa seule réponse très sincère a été de me demander de lui envoyer un flacon d'eau bénite de Lourdes, une photo du pape Benoît XVI et un médaillon de Sainte Rita pour prier pour les causes désespérées. Et nous étions en 2008 à l'époque et Obama allait se faire élire en proposant des solutions sociales innovantes pour le pays. Mais à ce moment-là, ma mère d'accueil, qui parlait de politique assez franchement, estimait que son opposant de l'époque, hein, John McCain, alors on a beau se moquer, ça c'est la parenthèse de Donald Trump, en fait John McCain portait quand même le nom d'une frite, et se comparait dans ses discours à Luke Skywalker, donc à l'époque c'était déjà quelque chose. Mais enfin, elle estimait que ce John McCain ne pouvait être que plus brillant que ce Obama Black, titulaire d'un diplôme d'Harvard, uniquement, disait-elle, parce qu'il faisait partie du quota des minorités. Bon, ça je n'ai pas pu vérifier, mais enfin c'est le genre de discours qu'elle me tenait. Donc on a très vite laissé tomber le sujet de la politique, mais pas plus tard que la semaine dernière, alors qu'elle m'expliquait justement que sa sciatique la faisait souffrir, parce qu'on se téléphone toutes les semaines, sa sciatique la faisait souffrir parce qu'ils ont aidé tout le week-end à construire la nouvelle église catholique de leur petite ville. Alors il faut imaginer tout de suite la description de ma mère d'accueil. Hein. Moi j'ai tout à coup l'image d'un des meilleurs épisodes de La Petite Maison dans la Prairie, où tous les hommes sont en salopette, sus comme des porcs en transportant des planches, tandis que les femmes préparent de la tarte à l'ananas de pécan au milieu des enfants heureux, épanouis, qui forcément chantent Gloria in excelsis Deo en faisant une grande ronde autour de leurs parents qui travaillent. Alors m'inquiétant pour elle de cette sciatique qui l'a fait tant souffrir et sachant qu'elle n'ira qu'en dernier recours chez le médecin puisque forcément elle n'a pas d'assurance maladie, je lui demande tout simplement si elle réussit à dormir. Et là, il faut imaginer ma mère d'accueil qui est géniale, hein, qui a 67 ans et qui m'explique avec le plus grand naturel que oui, hein, évidemment, pas de souci, parce que son fils lui fait des brownies à la marijuana. Ah, c'est génial, hein, elle dort super bien, quoi. D'ailleurs, elle m'explique que ça lui rappelle un peu son cancer, parce qu'à l'époque, elle avait eu droit, c'est quand même la moindre des choses, à du cannabis thérapeutique pour l'aider à traverser cette épreuve. Et vu que maintenant, le cannabis récréatif est légalisé depuis juillet en Oregon, eh ben, elle m'explique que tous les soirs, avec mon père d'accueil, ils hésitent, soit ils se font des pancakes à l'air, des cookies au shit ou des muffins à la peau. Alors voilà, je vous disais, pays de contraste, c'est vrai que rien n'est étonnant avec eux. Et moi, je vous avoue, franchement, Adrien, moi, ça me fait rêver.
Ben oui, entre l'eau bénite de Lourdes que vous lui avez envoyée et le pancake à la bœuf.
Oui, c'est naturel. Quoi.
C'est
voilà,
comme c'est un grand écart. Ça a toujours été comme ça dans votre état, natal, Roy.
Bon.
Les choses évoluent.
Pas exactement. L'Oregon était toujours un état assez progressif. Curieusement, c'était traditionnellement républicain aussi, jusqu'aux années 90. C'était républicain, mais très progressif. C'était un État très écolo dans les années 70. C'était contre la guerre du Vietnam. C'est un des premiers États de donner le droit au vote à la femme dans les années 20, etc., etc.
Cédric Godard, c'est ça aussi que vous avez pu mesurer là-bas, la grande liberté individuelle des États-Unis, même si la société est plus rude, hein, on a parlé des soins de santé, ça pousse chacun à s'épanouir sans se reposer sur la collectivité. C'est ça vraiment la grande différence avec la Belgique.
Oui, je buvais du petit lait en écoutant, voire du petit vin il y a quelques secondes. Je me disais, tiens, c'est tellement devenu mon quotidien aujourd'hui. Je trouve ça tellement normal. Oui, terre de contraste,
oh,
évidemment.
J'ai envie de venir vous rejoindre en Californie. C'est vraiment...
dans cet individualisme aussi, une recherche. Il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure. C'est cette sensation, quand on arrive aux États-Unis, après quelques semaines, après être acclimaté, après être débarrassé du jet lag, on a une sensation d'espace extérieur. Il y a beaucoup de place ici en Californie, même s'il y a beaucoup d'habitants dans cet état, on a une sensation de liberté extérieure qui se transmet, qui se traduit à l'intérieur par une liberté intérieure. Et on commence à assimiler tous ces concepts et à se quelque part à se débarrasser de cette dépendance à l'État qu'on peut avoir en Europe sans jugement, hein, absolument sans jugement, pour retrouver une certaine forme d'individuation, prendre un concept cher à Jung.
Et c'est pas étonnant que vous soyez freelance, hein, vous tenez beaucoup à cette liberté, même si parfois c'est dans le struggle for life. Alors vous faites encore des chroniques régulièrement, moi je vous entends chez Jérôme Collin et Xavier Van Bugenhout, dans Entrée
sans frontières. Une fois par semaine.
Ouais, avec le décalage horaire parce que c'est tôt le matin, enfin 9h et des poussières chez nous, et vous faites ça en pleine nuit.
C'est 2h du matin, c'est 2h du matin ici,
Mais c'est bien, c'est un exercice sympa. Vous faites d'autres émissions radio?
Non, j'avais une chronique qui s'appelait, comme vous le disiez il y a quelques dizaines de minutes, de Californication sur Pure FM, mais ça s'est arrêté en juin dernier, comme un accord, et parce que je pensais qu'on avait fait le tour aussi de la question.
Et puis vous avez choisi la meilleure radio, la première, c'est quand même question de... Vous avez bon goût, quoi, c'est bien Cédric Godard. On écoute un de vos artistes.
À chaque âge, c'est plaisir.
Très bien, pas mal. Un artiste que vous aimez beaucoup, c'est Sam Hunt. Est-ce que vous pouvez nous le lancer comme si vous étiez à ma place à la radio un dimanche matin?
Je l'adore. C'est un joueur de foot américain qui a décidé de changer complètement sa carrière. Il a un physique. Je sais que la messe va arriver dans quelques dizaines de minutes, mais il est juste magnifique. Il chante l'amour magnifiquement. Il a un succès sur les radios et pas que sur les radios de country music. Country music dont je suis devenu absolument fan parce qu'elle raconte les États-Unis. Il s'appelle donc Sam Hunt. Et je pense que c'est Take Your Time.
Absolument. On l'écoute.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
C'était donc Sam Hunt avec Take Your Time. Time flies, hein, c'est déjà la dernière ligne droite de nos Belges du bout du monde en Californie, jusqu'à 10h sur la première.
Les Belges du bout du monde, Adrien Jouvenot.
Cédric Godard, vous vivez à Santa Barbara, lové entre deux majestueuses montagnes et l'océan, à 150 km au nord de LA et à 530 km au sud de San Francisco, où vous avez vécu avant. Hein. Vous avez commencé par San Francisco et vous êtes descendu.
Oui, j'ai commencé à San Francisco.
Ouais. Vous allez finir à la frontière mexicaine si vous continuez comme ça à descendre.
Ah, moi, je peux finir à San Diego sans aucun problème. Ouais. C'est une ville absolument magnifique. C'était San Francisco jusqu'au mois de décembre de l'année dernière, donc c'est assez récent, le déménagement est assez récent.
Alors depuis 3 ans dans le Golden State, j'imagine que vous avez des coups de cœur, on les situe où Cédric?
On parlait tout à l'heure de la Napa Valley, la côte nord qui se trouve juste après le Golden Gate aux États-Unis est absolument magnifique, ces falaises, il y a un climat qui est exceptionnel sur la région là-bas, c'est un endroit pour les photographes qui est d'une inspiration infinie, je dirais. Et pour ce qui est de Santa Barbara, ce serait tout simplement peut-être le centre-ville, ce sont les montagnes, ce sont les vignobles. C'est l'université aussi de Santa Barbara, UCSB, qui est un campus. Vous imaginez le campus de Louvain-la-Neuve. Et voilà, il est en bord d'océan. Les étudiants sont à la plage en skateboard. C'est une ambiance absolument. J'habite à 500 mètres de là. Je peux vous dire que c'est assez exceptionnel à voir. C'est un ravissement pour les yeux tous les jours, à plus forte raison avec ce ciel bleu.
Ouais, vous vivez dans une carte postale. Ça, c'est incroyable. Mais vous avez parlé tout à l'heure quand même de l'enfer du décor, ce qui n'est pas toujours rose. Vous, Roy, depuis 30 ans en Belgique, vos endroits préférés?
J'aime bien le Camp de Rose pour faire les promenades, etc., parce que ça me fait rappeler à mon Oregon un peu.
Ouais. Ah, c'est bien, j'aime bien quand vous dites le Camp de Rose. Et ça me fait penser à une chanson de William Dunkerque, Camp de Rose Western. Alors, vos devises, ça c'est assez amusant parce que vous ne vous connaissiez pas, Roy et Cédric, c'est la première fois que vous vous parlez. Hein.
Oui.
Ouais, vous ne connaissez pas. Non. Et alors, on envoie Paul, Michel qui prépare cette émission et moi, à chacun des intervenants, un petit questionnaire. Et on vous a demandé à tous les deux vos devises dans la vie. Ouais. Et c'est marrant parce que vous avez une devise qui est quasiment la même.
C'est
quand même dingue. La vôtre, Cédric, votre devise, est-ce que vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous nous avez écrit?
Oui, c'est un extrait des lendemains de fête de Pascal Sevran, un des tomes de son journal qui m'a beaucoup inspiré, que j'avais rencontré, que j'avais interviewé il y a quelques années de cela. C'était encore à l'époque de Bruxelles Capitale, ça ne nous rajeunit pas. Prendre les mains qui se tendent, ne pas courir après ceux qui s'en vont, il n'y a pas de meilleure attitude possible.
Ouais, dans la vie, une certaine philosophie assez proche de la vôtre, Roy.
Il faut s'adapter aux gens qui sont là, devant toi. Et c'est l'idée de... Il ne faut jamais demander que quelqu'un te donne ce que tu sais qu'ils n'ont pas.
Ouais.
Ça ne fait que te préparer pour la déception.
Est-ce que des choses vous manquent, Roy, Gentry, vous qui vivez chez nous depuis plus d'un quart de siècle maintenant?
J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Les gens me demandent cela souvent. Et franchement, maintenant, bon, au début, il me manquait la pâte à cacahuètes ou des choses comme ça. Mais maintenant, on trouve tout sur le marché. Et je crois que ce qui me manque le plus, mes nièces, mes neveux et ses petits-enfants maintenant, ses enfants et même les petits-enfants. J'ai des nièces maintenant qui sont des grands-mères. Donc ça me manque. Ça m'a manqué voir la famille grandir. Et puis, d'autrement, il me manque un peu la géographie, la grande montagne, la plage de l'Oregon. C'est le plus beau du monde, même plus beau, beaucoup plus beau que la plage de Californie. Et en plus, c'est tout public. Hein. Toute la plage en Oregon, c'est accessible au public. Et puis, les grandes montagnes, les forêts, tout cela, ça me manque. Pour moi, les forêts sont mes cathédrales.
Oh, joli, oh, les cathédrales de verdure.
Et que j'ai trouvé Dieu là dans la nature, plus que dans n'importe quel bâtiment, l'église, etc. Et puis, troisième fois, il me manque les grandes bibliothèques publiques comme aux États-Unis, qui sont vraiment splendides, avec un accès libre aux bouquins, aux livres, etc. Ça me manque énormément.
Ouais.
Donc, à cause de cela, je dépense des sommes énormes en bouquins, en livres, mais ce sont les trois choses qui me manquent le plus, je suppose.
Et vous, Cédric, la Belgique vous manque un petit peu, malgré la plage de Santa Barbara et le paradis à portée de main, là?
Je vais peut-être vous étonner. Bon, il y a évidemment la famille. Ça, c'est la famille. Voilà, mon petit neveu que je vois pas grandir et que je vois pas aussi souvent que je voudrais, parce que c'est pas toujours très simple de rentrer en Belgique pour longtemps. Il y a aussi quelque part une certaine douceur de vivre. La vie est rude ici, malgré les plages et malgré le ciel bleu. Et puis je dirais aussi la plage d'Ostende ou peut-être la plage du Coq qui me manque aussi, qui est très différente avec cette eau verte. Je sais pas, enfin,
gris, bleu,
dans mon souvenir, l'eau est verte.
Oui, il y a toutes les couleurs, on passe par toutes les nuances du gris. Vous écrivez « Je n'ai pas peur du temps qui passe, il est ce que nous en faisons ». Vous avez des projets, des perspectives? Vous allez en faire quoi du temps, du demi-siècle qu'il vous reste, Cédric Godard?
On verra bien. Je préfère ne pas faire de plan. Tout est arrivé de manière très, très inattendue. Le départ, je ne m'y attendais plus du tout. J'avais peut-être renoncé aussi à mon rêve américain, même si je n'aime pas tellement cette expression, parce que le rêve se transforme très vite en cauchemar si on pense que ça va être un rêve et un ciel bleu tous les jours. Je ne sais pas, je préfère laisser venir les choses, le hasard de la vie.
Wait voilà. And see. Alors, ne jetons pas des plans sur la comète, jetons plutôt un œil vers les perspectives américaines, Catherine Tenero.
Oui, on a récemment parlé de la Californie, touchée par une énorme fuite de méthane. Elle émanait depuis le mois d'octobre d'un puits gazier dans un quartier de Los Angeles. La fuite n'est totalement sous contrôle que depuis la mi-février. C'est une catastrophe environnementale qui a obligé les milliers d'habitants du quartier à déménager. La compagnie gazière fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires. C'est une sacrée ombre, hein, au tableau de la lutte exemplaire que mène l'État contre le réchauffement climatique. La Californie, qui reste tout de même considérée comme un État moteur d'innovation et laboratoire des modes de vie de demain.
À propos de moteur, Cédric, c'est là qu'a été conçue la Tesla, cette voiture de sport techno-électronique fabriquée dans la Silicon Valley.
Tesla est une des pépites, même si Tesla ne gagne pas d'argent, sa valorisation boursière suffit à comprendre qu'on est là vraiment sur la voiture du futur. Elle était inabordable jusqu'ici, elle devient, je ne vais pas dire à la portée de tout le monde, mais de plus en plus abordable, en tout cas en leasing pour les Californiens. Il y a aussi beaucoup d'incitations à passer à l'électrique ici, parce que c'est un état, probablement comme l'Oregon, très green aussi, la Californie.
Oui, vous allez, paraît-il, à la plage à bicyclette, c'est vrai ça, Cédric?
Oui, exactement.
Ouais,
c'est le premier achat ce fut mon premier achat. J'ai tout simplement allumé mon ordinateur, Craigslist, qui est le vlan local. Et puis j'ai vu un vélo et je me suis dit, ah, ce sera mon premier achat, un vélo, $80.
On parlera encore de la Californie en cette année de la course à la Maison-Blanche, Catherine.
Mais oui, c'est l'un des derniers États à voter pour les primaires. C'est surtout l'État qui pèse le plus en termes de grands électeurs. Et ce sont eux hein, qui, in fine, éliront le ou la future présidente des États-Unis. Le match se jouera probablement entre Donald Trump qui se dégage nettement côté républicain et Hillary Clinton ou Bernie Sanders au coude à coude côté démocrate. Verdict pour ça le 8 novembre prochain.
Vous serez sur place, Cédric? Vous allez couvrir cette course à la présidence?
Débat passionnant cette année puisque c'est un débat qui se déroule presque aux deux extrêmes. Aux extrêmes de la gauche, enfin d'une certaine gauche américaine. Ça passe quand même pour très très libéral en Europe. Mais ici, c'est Sanders, c'est de la gauche. Et puis Trump de l'autre côté.
Merci de nous avoir fait rêver, hein, Cédric. Godard, Bédard.
Merci à vous, c'était passionnant.
Informé, c'était vraiment...
Merci à Roy.
Ouais,
merci,
ouais,
à
ouais.
toi.
Alors, si vous voulez aller sur la toile, pour... parce que je sais qu'elle vous a fait rire, hein, Véronique Gallo, Cédric, sachez qu'elle poste des vidéos, c'est tous les mercredis, hein, je
oui,
crois.
Oui, c'est tous les mercredis, ouais. Oh. Ça s'appelle Vie de mère, et forcément c'est le mercredi que les mères n'en peuvent plus, donc voilà. C'est une mère qui se confie à sa psy online, voilà, sur son quotidien éreintant de maman de 4 enfants.
D'accord, et puis on peut vous voir sur scène, vous serez après-demain à Saint-Guilain, les 30 et 31 mars au Théâtre de la Toison d'Or, et le 15 avril à Jette. On vous souhaite une bonne tournée.
Merci, merci à vous, c'était vraiment un plaisir d'abord de parler avec Cédric, voilà, que j'admire depuis de nombreuses années, puis de rencontrer Roy, et voilà, d'avoir... plein d'infos intéressantes, ça me donne envie de repartir là-bas.
Oui, oui, oui. Vous allez avoir une cliente.
Venez.
Pour votre wine tour.
Je serai la première.
Je vous invite tous l'été prochain, si
Super.
Vous voulez. Je vous invite tous l'été prochain, avec plaisir.
C'est sympa. La semaine prochaine, Catherine Tenero, nous serons dans un pays que vous connaissez bien, c'est le Burkina Faso.
Burkina Faso, mm-hmm. Effectivement. J'en reviens. J'ai été y faire un stage de danse africaine il y a quelques semaines.
Et notre invité sera Sita Kango, qui a beaucoup de choses à raconter sur son pays natal. Et je vais vous surprendre, Cédric Godard. Ce ne sera pas la messe, mais Alain Gerlache. C'est lui qui officie dorénavant à 10h sur la première pour les décodeurs RTBF. Restez branchés là-bas, outre-Atlantique.
Merci, à bientôt.
Bye bye. Merci aussi à Paul Michel qui réalise cette émission disponible en podcast sur lapremière.be. On a aussi mis toutes les photos de Cédric et de son American Dream sur la page Facebook des Belges du bout du monde. Excellent dimanche à toutes et à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.
La première podcast.